Amis trésistes du soir, bonsoir. Nous sommes pour la sixième fois de la saison, toujours en terre trésiste, puisque nous sommes ce soir à Salses-le-Château, chez notre ami Patrick Toreil, ancien international de rugby à 13, joueur de PIA et joueur actuellement de Salses, malgré ses 40 ans bien sonnés, joueur-entraîneur de Salses. Alors, autour de la table ce soir, du gratin, comme d'habitude, on est habitué à avoir des grands techniciens du rugby à 13, et cette fois-ci, on a encore deux joueurs. Comme la semaine passée, nous avions Jamel Fakir et Olivier Lima qui nous avaient rejoints sur PIA chez Pascal Fage. Ce soir, donc, chez Patrick Toreil, nous avons le plaisir et le privilège d'avoir Jérôme Guisset et puis Cyril Gossard, invité de la dernière minute. Merci d'être venu, messieurs. Bonsoir. Alors, aussi solide que les avant, il est sur la gauche, c'est notre ami René Montala, le papa du forum. Bonsoir René. Jean-Marie Bousquet, qui devient un pilier incontrôlable de l'équipe aussi, de la 13e heure, qui est toujours là avec Alain Forge, qui est également en face de moi. Pierre Vergès, multicarte, formateur émérite de joueurs de talent, on va dire ça comme ça. Très connu dans le milieu trésiste, qui est avec nous. Et puis Hervé Guiraud, qui est parti une semaine sous les tropiques, me semble-t-il, ou je ne sais pas trop où est-ce qu'il était. C'est presque ça, voilà. Qui est de retour, contrairement à Louis Bonnery, qui lui est parti en Espagne, me semble-t-il. À Madrid, voilà, la capitale espagnole. Olivier Gondran, toujours présent à droite du père. On dira ça comme ça. Voilà, pour la sixième émission. Donc, amis trésistes, nous allons aborder un sujet qui fâche comme la semaine passée, malheureusement, puisque les Dragons catalans n'ont pas redressé la tête après maintenant 11 rencontres disputées. Le bilan comptable est de 9 défaites, donc c'est pas forcément très glorieux, surtout que l'équipe sort de 3 défaites consécutives en 8 jours. Donc je pense que la meilleure des explications pourrait venir des joueurs, dont Cyril, Jérôme. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez les Dragons catalans?
Ce qui se passe, c'est pour l'IKEA, c'est que c'est vrai qu'on est sur un peu une spirale de défaite, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est toujours très dur de relever le cap et surtout d'être positif. Bien qu'on essaie que le staff, bien sûr, et que tout le joueur entre eux essayons de nous mettre la patate entre guillemets. C'est vrai que c'est toujours dur de se prendre des revers. Surtout quand on a subi un tel nombre. Après, bon, c'est vrai que la route est longue. On veut pas tirer une croix sur cette saison. On l'a mal débuté, mais bon, c'est à nous de réagir en professionnel et essayer de contourner un peu ce qui se passe à l'heure actuelle.
Cyril, puisque on a la chance de t'avoir à nos côtés, tu étais absent donc lundi dernier. Si je ne me trompe pas, le 3 derniers matchs, effectivement, donc c'est la rentrée pour toi, des dimanches face à Salford. On suppose que tu es très, très enthousiaste, très motivé, mais alors avec une vue extérieure, justement, comment tu peux analyser ces matchs que l'on a vus, sans trop de volume de jeu, sans trop de créativité, sans trop de génie, on dira.
C'est vrai que quand on voit par exemple le premier match à domicile donc de la série, à Leeds, on fait une très bonne entame, puis on voit cet essai qu'on prend sur un coup de pied, un rebond, bizarre quoi. Enfin, on voit vraiment que beaucoup de réussite pour Leeds, et on sent que moralement, ça fout un coup sur le casque un peu à tout le monde. On n'est pas dans une période où tout nous réussit, au contraire, et donc du coup, c'est vrai que dès qu'on commence à prendre un ou deux coups sur la cabine, on a du mal à redresser la tête. Alors des fois, on y arrive après la mi-temps, comme ça a été le cas à Leeds, mais le problème c'est qu'on a déjà trop de retard au tableau d'affichage, donc même si on arrive à montrer une meilleure figure, Le score est là quoi. Donc après c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit l'exemple de Bradford, tout le monde a de bonnes intentions, mais c'est comme quand il n'y a rien qui va, on essaie de libérer un ballon, ce jour-là il va aller dans les mains d'un défenseur. Du coup tout le monde essaie de sauver un peu la patrie un peu tout seul. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. On se pose des questions et c'est pas vraiment pas le meilleur moment pour.
Sans trouver les réponses. Voilà, ouais. Tu dis on essaie de sauver la patrie individuellement. Est-ce que justement il manque un patron? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'un gars comme Bird qui est parti manque au sein du groupe pour remettre un peu le bateau à flot quand ça coule?
Oui et non. C'est vrai que bon, Bird a fait pas mal de bien quand il est arrivé. En même temps, on savait en début de saison qu'il n'y serait pas. On a travaillé et il n'était pas là. Donc des solutions on peut les trouver, mais c'est ce qu'on disait. C'est au lieu de, des fois de garder le ballon, comme on sait qu'on est un peu juste, on va essayer de libérer. Et il aurait peut-être pas fallu. C'est ce genre de petites choses qui fait que dans des meilleurs moments ça passe. Et là quand on est au fond du saut, ben, ça passe pas et ça remet un coup de plus sur le casque à chaque fois. Quoi.
Alors on doit s'attendre à quoi en fait par rapport à Salford? Est-ce qu'il y a eu un coup de gueule dans les vestiaires? A priori Bernard Rouache est monté au créneau une nouvelle fois. Est-ce que ce sera suffisant un coup de gueule? Est-ce que le mal n'est pas plus profond? Est-ce qu'il n'y a pas les joueurs? Est-ce qu'au niveau de l'entente entre les joueurs, est-ce que c'est aussi bien que les années précédentes? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise que nous en tant que supporters on ne voit pas?
Au niveau des joueurs, s'il y a un malaise, il est vraiment pas là. C'est vrai qu'heureusement, d'ailleurs pour ça, vu les résultats et l'ambiance à l'extérieur du stade, c'est vrai que si en plus on n'avait pas une bonne ambiance entre nous, je crois que ça serait vraiment très très difficile. Heureusement qu'on s'entend bien.
Non, mais pour rebondir à ce que dit Cyril, on est bien élatés, nous. Un quart de la saison, bon, on a perdu 9 matchs sur 11. Ça y est, tout est fini, on jette tout le monde, on met tout le monde dehors, on ne vaut plus rien. Tout ce qui est fait n'est pas bon. Bon, forcément... On sait très bien, on va pas revenir sur les blessures qui ont handicapé l'équipe depuis le début de la saison. Maintenant, eh bien, je crois que Bernard appelle à la rébellion. La rébellion ne fera pas tout, puisque bien sûr, il faut du talent sur le terrain. Si on commence déjà, nous, à supporter les joueurs comme ils le méritent, et que les joueurs arrivent à se battre, eh bien, écoute, je vois pas pourquoi, en récupérant les blessés, je crois que Cyril rentre dimanche, Olivier Lima aussi.
Olivier, encore, c'est pas encore sûr.
Olivier, c'est pas sûr. Je vois pas. Jamal Fakir, apparemment il y a une mauvaise nouvelle pour Chris Walker qui, outre sa suspension, je crois qu'il est maintenant officiel, sa mise à pied, est assez sérieusement blessé au cervical. Bon écoutez, la saison n'est pas finie les gars, il reste 20 matchs pratiquement à jouer, je compte jusqu'à la finale de la Coupe. Eh bien il faut y croire et pourquoi pas.
Oui, bon, je vais rebondir sur ce que tu as dit Olivier. Il est évident qu'on ne va pas brûler ce qu'on a adoré. Les joueurs doivent être respectés d'abord parce que on sait ce qu'ils ont fait et surtout les efforts qu'ils font au niveau de l'entraînement, au niveau de l'implication aussi. Donc voilà, c'est la première chose, c'est que il faut les soutenir avant de critiquer. Bon, on sait que le public trésiste et le public catalan est exigeant et a tendance à tourner très vite et à balancer très vite des coups de scie. Mais là, bon, l'appel qu'il faut lancer, c'est que vraiment le public doit être derrière les joueurs et pousser. Et c'est là où ils en ont besoin en période de crise. Je pense qu'après, on donnera un peu notre avis sur la problématique, parce qu'il n'y a pas qu'un seul problème sur ce qui amène à ce début de saison qui est pas bon, parce qu'on va pas non plus faire comme les autruches, mettre la tête dans le sable et se cacher la vérité. Mais bon, il faut quand même d'abord soutenir les joueurs.
Il y a un problème majeur quand même. Tu dis il y a beaucoup de problèmes. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a quand même un problème majeur, non? On s'est vu à la fin du match à Aimé Giral, tu pestais contre les Australiens. Et... va jusqu'au bout des choses, bien.
Oui, moi je pestais contre certains Australiens. Moi, il y a un truc qui commence à m'irriter dans le rugby à 13. C'est qu'on regarde le rugby à 13, tel qu'il est, il est structuré au niveau planétaire. Ben, l'argent, il vient d'où? Il vient de Murdoch, australien. Les deux principaux championnats, c'est la NRL australienne. La Super League, ben, c'est une sous-franchise de la NRL australienne. Les trois quarts des entraîneurs sont australiens. Il y a plein de joueurs australiens, y compris en Angleterre. Les ballons australiens, tout australien. Il faut pas oublier qu'ici aussi, on a une culture. On a une culture de rugby. Il y a des techniciens, il y a des gens qui connaissent le rugby. Et il y a des choses. Il faut pas nous faire pas prendre des vessies pour des lanternes. Au niveau du recrutement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On a le droit de se tromper sur des. J'ai été agent, donc on a le droit de se tromper sur les joueurs. Bon, on se trompe, il faut un 7, on le sait qu'il faut un 7. L'an dernier, il y a eu Perry, on s'est trompé sur Perry, ça c'est excusable. Le joueur est bon une année, l'autre année il tourne pas, c'est pas un problème. Cette année, on s'est trompé à la fois sur les joueurs et sur les postes. Alors moi, je me pose quand même des questions sur ce qui se passe au niveau du recrutement. Quoi.
Hervé Guiraud, c'est ton avis aussi? On se trompait sur les postes?
Mais disons, le souci qu'il y a au Dragon, c'est justement ce numéro 7 qui manque, parce que c'est vrai que depuis le départ de Stacey John, Michael Dobson était venu aussi, c'était un super 7. Le souci qu'il y a, c'est que c'est Thomas. Thomas, on le promène, 7, 6, 1. Je crois qu'il va falloir lui affirmer un poste à Thomas. Pour moi, c'est pas un 7, Thomas, c'est un 6. Pour moi, c'est un 6.
Absolument, c'est pas évident. Absolument. À nos yeux.
Voilà, donc.
C'est un lanceur d'attaque, et plus un lanceur d'attaque qu'un passeur, qu'un meneur de jeu pour moi.
Donc à lui, on y fait perdre du temps parce qu'il est au service du collectif de cette équipe-là, et c'est pas bon quoi tout ça, parce qu'on se dit bon, finalement on va pas prendre un 7, on va aller chercher un autre joueur parce qu'on a Thomas qui peut faire ça, nous rendre service. En 6, on avait Mock pouvait jouer en 6, Maguire peut jouer, et à force de faire tous ces rôles de composition, c'est pas simple parce qu'on sait plus où on en est. Donc en tant que supporter, ouais. Et je suis sûr que les joueurs c'est pareil sur le terrain, on se cherche et on n'arrive pas à avoir cette équipe, une équipe type, une équipe avec qui il faut travailler, le 9, le 7, le 6, le 1, on sait que c'est l'axe profond, c'est l'axe important du rugby, et on compose et on arrive à moitié championnat et on est toujours dans un rôle de composition.
Moi je voulais un peu rebondir ce qu'avait dit notre ami Pierre Vergès.
Ça t'intéresse pas ce que j'ai dit
quoi. Si, et tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est lui qui a commencé. Donc je voulais parler un peu du public, parce que je sais que nos joueurs, ils sont sensibles au sifflet. Je crois que tu en as parlé la dernière fois à Orange Sport, au sujet des spectateurs qui ont crié à appeler l'arbitre. Bon, tout d'abord, il faut savoir, première chose, que quand on réussit, et il faut parler ça, le tour de force d'amener 9000 personnes à Émile Giral, d'abord, il faut féliciter le... technique des Dragons, qui ont réussi à faire ce tour de force. Il faut savoir que là-dedans, il n'y a pas que des trésistes, j'ai envie de dire, purs et durs. On se souvient encore des 800 spectateurs qui étaient à l'UTC. Aujourd'hui, on se trouve avec 9000 personnes. Il y a des gens à côté de moi, ils ne sont jamais venus voir du 13, ou très peu. Donc ces gens-là, ils n'ont pas la même culture que nous. C'est-à-dire que nous, autour de la table, on ne siffle pas, on applaudit même les équipes adverses, ça nous arrive souvent. Alors à partir de là, on dit qu'il y a un problème avec le public. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème avec le public. Le public, il vient chercher un spectacle. Aujourd'hui, on a du mal à lui fournir. Ceux qui viennent chercher, le public, il paye. Donc, c'est la parenthèse que je voulais faire. Quant à l'histoire du 7 et du 6, j'avais l'impression que le recrutement était tourné vers ces gens-là. Pour une raison que j'ignore, bien que j'ai lu la petite de notre ami Bernard Gouache, du président... Les coachs auraient souhaité faire jouer Mog en 6 et puis Thomas en 7. Un est blessé, l'autre s'en va. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des yeux pour pleurer.
Pensez-moi, n'était pas là.
Oui, mais René, le problème du 7, un gros 7 aujourd'hui en Australie, c'est 25 000 par mois, 25 000 euros. Donc, il faut avoir les finances pour aller le chercher, le gros 7. Parce que c'est bien beau de prendre un 7. Si tu prends un 7 qui t'apporte rien.
C'est vrai que le départ de Bird en 6 nous a fait oublier ce qu'était un véritable 6. Voilà. Maintenant, bon, on verra bien. La saison n'est pas terminée. Il y aura encore des joueurs. Il y a des jeunes joueurs. Moi, je voulais parler par exemple du jeune Gigot. Moi, j'ai apprécié ce joueur. Il joue en 9. Avec la passe qu'il a, je verrais bien jouer un 6. Je pense que
c'est son poste d'origine d'ailleurs.
Il pourrait être essayé là.
C'est voilà. Son poste d'origine. Les joueurs, vous êtes les principaux intéressés. Est-ce que vous pensez justement qu'on a ce problème de charnière? Est-ce que c'est un mal récurrent ou est-ce qu'on peut presque s'en passer et jouer différemment?
C'est bien d'entendre un peu tout ce que tous les comment ça s'appelle les contenus de tout le monde. Parce que on parlait de Stacey Jones depuis que Stacey Jones est parti. Mais bon, de notre côté, il faut pas rester derrière ça tout le temps, quoi. Parce que moi, pour moi, un gars comme Thomas, qui était complètement inconnu lorsque la Super League a débuté, s'il avait pas eu la blessure de Stacey, Thomas il aurait jamais eu sa chance. Donc c'est peut-être pas son poste d'origine. Je suis peut-être d'accord avec vous. Je pense que Thomas est plus un 6 qu'un 7. Maintenant, je pense qu'il est assez de talent pour pouvoir couvrir le deux postes. Deuxièmement, je pense qu'un gars comme Mougui, si on doit en revenir à lui maintenant qu'il est parti, Je pense que le courant était beaucoup plus passé avec Mick Potter qu'il n'avait passé avec Kevin. Je pense qu'il faut pas être. Et je pense que tout le monde l'a vu assez rapide. Enfin, pas assez rapidement, mais l'a vu. Puisqu'avec Mick, au début, il a été recruté au poste centre. Il est passé au poste 6 lorsqu'il y a eu un peu le chamboulage à cause de Stécie aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il a fait pas mal de boulot. Enfin, je sais pas si Cyril est d'accord avec moi. Il a fait beaucoup de bon boulot en 6. Maintenant, Kevin étant un 6 d'origine, lui aussi, peut-être voyait la chose un peu différemment. Donc c'est vrai que, je sais pas si le courant est passé ou pas passé. Ensuite, au niveau de Greg Bird, pour moi, c'était pas un 6.
Non, troisième ligne.
C'était plus une troisième ligne. Je pense que l'année dernière, tous les gros matchs qu'il les a fait, il les a fait lorsqu'il jouait au milieu. Je pense que son gabarit physique lui permettait de pouvoir vraiment bien s'intégrer au milieu. Mais c'est vrai que pour en revenir au point principal qui est le poste 7, je pense que ça nous fait beaucoup. Enfin, ça nous fait défaut à l'heure actuelle. C'est vrai que je ne sais pas si Thomas peut-être. Thomas, c'est vrai que pour vraiment s'épanouir, a besoin de quelqu'un de grand à côté.
Des rassurants, des d'expérience, voilà, exactement. Et ne pas dans un rôle décisionnaire, quoi.
Voilà,
c'est
exactement,
ça
exactement. Je pense que cette pression lui, qu'il a sur les épaules à l'heure actuelle, peut-être lui porte un peu à défaut.
Hervé Pierre, vous avez joué ouais. en 7, hein, chacun à un niveau différent. C'était un peu facile.
on va pas parler, c'est pas le but. Moi, j'ai une question à Jérôme, moi j'ai du mal à voir une ligne directrice et dans le recrutement, et on va lier les deux choses. J'ai du mal à voir une ligne directrice dans le système de jeu, dans le jeu et dans le recrutement. On a besoin d'un 7 et on recrute deux centres qui sont plus des centres perforateurs que passeurs. Avec un éventuellement qui peut jouer à un 6, oui, bon, passons. Ensuite, au niveau de toujours pareil, au niveau du recrutement, je parle sous le contrôle de Cyril et de Jérôme. Vous jouiez jusqu'à présent avec le troisième ligne utilisé comme un troisième pilier. On recrute un Dallas Johnson qui a d'énormes qualités, mais qui est plus un joueur qui joue, allez, en exagérant un peu, il joue troisième ligne un peu comme un deuxième ouvreur. C'est-à-dire que c'est pas un joueur d'impact, il fait jouer après lui. Très souvent, c'est super, moi j'adore. Hein. Il fait des relais courts en essayant de mettre le joueur après lui dans l'intervalle. Puis il y a pas de ligne directrice. C'est d'une année à l'autre. Alors, est-ce que le système de jeu a changé ou est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, je pose la question aux joueurs. Et qui recrute,
ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi je pense que Cyril est d'accord sur ce point. Enfin, nous en tant que joueurs, je pense qu'on a. Enfin, j'ai aucun. Aucune
vue sur le recrutement.
Voilà, pas aucune vue, mais je peux.
J'ai aucune idée.
Voilà, exactement. Ouais. C'est, ça se passe en dehors de ce qu'on
peut. Jérôme, moi, je te demande ouais, savoir si je dis des conneries ou pas.
Non, je suis d'accord.
Voilà, parce que bon,
c'est
maintenant.
C'est vrai que. C'est con pour de citer des noms, mais c'est vrai que l'année dernière, je pense qu'au niveau des centres, on était très bien. Je pense qu'un gars comme Jean-Philippe avait fait une super saison. Je pense que Sébastien Raguin, qui même joue à une place, un poste qui est peut-être par définition pas le sien, a fait une super saison aussi. On a aussi peut-être d'autres joueurs qui peuvent jouer à ce poste. C'est vrai qu'on était assez solide quoi au niveau des centres. C'est vrai que peut-être l'axe principal aurait été de prendre un 7. Ouais. C'est vrai. Mais
Je me permets encore de prendre la parole, mais une chose qui me paraît évidente, moi. Donc, tu dis, on avait deux centres performants. Effectivement, ils ont été performants, Bell et Raguin. On part, en fait, avec quatre joueurs, donc une charnière 7-6, dont Bost, Mog, qui ne sont pas leur poste d'origine, et Bell et Raguin, qui ne sont pas non plus leur poste d'origine. Donc, est-ce que là aussi, c'est pas le souci ne viendrait pas de là, je sais pas, autour de moi?
Ben, on va essayer de... Le diagnostic, je crois qu'on est tous d'accord. À la limite, dans l'état où est la saison maintenant, moi, je modestement, hein, très modestement, pourquoi pas installer un vrai 7. Moi, j'ai trouvé le petit William Barthaud vraiment très intéressant, même dans la prise d'initiative. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un numéro 7, moins on le voit souvent, plus il est bon. Ou alors on a un génie comme Stacey Jones, et là on est capable de le voir et d'orienter le jeu. Mais il y a plein de numéros 7, on ne les voit pas. Alors le public de base dit à quel type balle paraît parce qu'il ne franchit pas. Mais le type, il oriente super bien le jeu et il fait jouer les copains à côté. Et là, le petit Barthaud, moi je l'ai trouvé très intéressant dans ce rôle-là. Après, avec un Thomas Boss qui est un très bon lanceur d'attaque à côté, peut-être installer pour l'avenir cette charnière-là. Un meneur de jeu, il faut qu'il soit en confiance. Et le mettre en confiance, pas lui dire tu joues, si t'es pas bon, tu ressors. Voilà, s'installer là-dessus, avoir une solution franco-française, en se servant du fait que, bon, de toute façon, on ne peut pas jouer plus mal que ça. D'accord. Il n'y a absolument aujourd'hui aucun lien entre les avants et les trois quarts. On a des avants qui avancent. Et qui avance bien même, et ça enchaîne pas après. Bon. Alors, on joue à trois passes maximum.
D'accord. On a la chance d'être Patrick Torreille ce soir, qui a un œil à viser sur le rugby à 13, qui entraîne encore, donc il connaît la musique. Patrick, toi, par rapport au dernier match, selon toi, le mal vient d'où ?
Non, bon, je m'excuserai parce qu'au dernier match, j'étais pas, mais bon, j'ai vu celui de Leeds. Bon, c'est difficile quand même quand vous rencontrez les deux derniers week-ends, Leeds-Bradford avec des équipes remaniées. Surtout Leeds qui revenait pour prendre des points. On a vu quand même Carlo au centre avec Touchagas. Bon, j'ai rien contre eux, mais bon, ce ne sont pas des centres de métier quand même, contre une équipe comme Leeds. Donc après, on peut parler toujours du 7, du 6. Bon, il y a les avants qui vont au combat, bon, qui avancent des fois et des fois qui n'avancent pas, parce que c'est difficile d'avancer quand même en Super League dans le milieu du terrain. Et bon, partant de là, bon, c'est sûr qu'on peut toujours dire il nous manque un Stacey Jones ou vous allez chercher un des meilleurs demi-mêlés du monde, mais c'est sûr que toutes les équipes n'en ont pas. Là, Bradford vient ce week-end avec le demi-mêlé champion d'Australie en titre, avec
le Tour
aussi. Donc, bon, ça fait quand même une équipe en face qui venait chercher de nouveau des points. Nous, avec de nouveau une équipe remaniée, des blessés qui s'accumule. Bon, je pense que c'est facile de critiquer ou de donner son avis sur les matchs qu'il y a en ce moment. Mais bon, il faut penser que le championnat est long, il reste encore 16 matchs. Je pense que peut-être la 8e place sera très peu envisageable. Ça dépend des autres équipes et surtout de nous. Moi, je pense qu'il y a la Cup. La Cup, ça peut nous permettre de rebondir, de prolonger avec une qualification dans l'engouement pour les joueurs, surtout. Et voilà, bon, il faut patienter. Il y aura des jours meilleurs, certainement. Et j'en suis persuadé. Voilà.
Allez, Forge, tu es d'accord, pas d'accord ?
Moi, pour en revenir à Barthaud, j'étais comme Pierre Vergès, je fondais des gros espoirs sur lui. Mais il faut dire, il est rentré à Londres le jour où on a fait encore un des plus mauvais matchs de tous les matchs qu'on a fait. D'après Bernard Guache qui était présent, c'était un match où on a été vraiment mauvais. Donc par contre, sur la rencontre de samedi, on a essayé de faire du jeu. On a essayé pour la première fois d'écarter un peu le ballon. Mais moi, je pense que devant, malgré ce qu'on dit, on pénètre pas assez. Si tu veux, on joue à un souvent. Alors que moi j'ai vu Leeds, moi quand ils nous ont fixé au milieu du terrain le match d'avant, ils donnaient un ballon intérieur et il y avait un type qui donnait après un autre qui arrivait lancer à gauche ou à droite. Nous c'est un type seul. Alors les défenseurs en face, ils n'ont pas de mal à défendre contre nous et ils nous fatiguent. Ouais. Ils nous fatiguent plus parce que quand tu prends trois types sur le dos, même si toi et si t'es lancé moyennement, parce que je trouve qu'on n'est pas assez lancé. Voilà. Donc tant qu'on jouera pas dans le dos. Légèrement dans les phases, même provoquer les tenues où on va rentrer dedans assez et jouer vite après derrière pour les trois quarts, parce que les trois quarts, on n'a pas les trois quarts quand même qui sont. On va faire l'année comme on pourra. Voilà. Et justement, moi je suis abonné à Rugby League World et sur celui du mois d'avril, il y a Phil Larder qui est un DTN comme Louis Bonnery était, qui s'occupait du rugby à 13, et qui a analysé le match que nous avons joué chez les Gallois. Et regardez ce qu'il dit. C'est quand même assez intéressant. En anglais, j'ai essayé de traduire en français, mais je suis pas sûr. Il a comparé les contacts de ce match au film Gladiator. Ouais. Ce qui veut dire que ça a été un match très rude. Alors, il a dit que les offensives tant galloises que des dragons ont eu lieu qu'à l'intérieur des 30 mètres adverses. Avant, il n'y a pas eu de jeu. Par contre, il a dit que sur les coups de pied, les Gallois ont été nettement meilleurs que nous. C'est l'Ardère qui dit ça. Et il a dit que la défense condensée des Crusaders était facilitée devant le peu d'envergure de jeu des dragons. Voilà. Alors, ce qu'il dit en conclusion sur les dragons, l'Ardère... Il dit, les dragons doivent adopter une approche plus ambitieuse de leur jeu, même dans leur moitié de terrain. Voilà. Et moi, je pense qu'on devrait jouer même plus ambitieux, mais il faut que nos offensifs partent au départ. Les avant, moi, je voudrais que vous arriviez plus lancés et avec une petite diversion. Pas un type toujours tout seul.
L'ambition vient avec la confiance, peut-être aussi.
Et libérer les ballons. On ne libère pas de ballons. Contre Leeds, 20 offloads à zéro. Hein. On ne libère pas de ballons.
Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que ce week-end, on a essayé un peu de libérer. C'est un peu ce que disait ce que Cyril en tout début du débat. Quoi. C'est le problème qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, on joue avec zéro confiance, zéro. Tout ce qu'on essaie de faire, à un moment donné, lorsqu'une équipe joue avec un peu de négativité, quoi, ça tombe à l'eau. Ce week-end, encore une fois, premier match de Jean-Phi. Premier bon truc qu'il fait avec Greg, il essaie de lui refiler une passe intérieure, interception de Steve Menzies
pour le moral,
et
c'est de
40 mètres alors qu'on pouvait pratiquement revenir au score. Je crois que c'était, il y avait 28 à ce moment là donc c'est vrai qu'on a essayé quelquefois de libérer le ballon, mais comme disait Cyril, à partir du moment où on essaie de faire des choses un par un, c'est le rugby à 13, c'est à 13, c'est pas le rugby à 1, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça se démontre pas trop sur le terrain, quoi.
Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose d'important, puisque j'ai revu le match à la vidéo avec Cyril. Moi, la défense me pose problème. Parce que l'année dernière, souvent, notamment lors des playoffs, quand vous défendiez, les gars se retrouvaient sur le dos. Tout le temps sur le dos. Là, la plupart du temps, les gars se retrouvent sur les genoux. Ils sont pas fous. Derrière, ça joue vite. Il y a deux ou trois tenues où les joueurs, bon, tu jouais pas, hein, mais nos joueurs qui se replacent sont encore deux tournés aux gars qui jouent les tenues. Donc, tu vois un peu le retard qu'il y a. Mais là, ça vient de quoi? Parce que c'est récurrent quand même.
Il y a deux problèmes. Bon. On est remanié tous les week-ends. Moi, je sais quand je défends à droite, si j'ai Sébastien Arrien par exemple, je sais que les yeux fermés, je sais où il sera. C'est-à-dire, si je monte le demi, je sais que ça me couvrira. Je sais qu'intérieurement, à l'intérieur, c'est-à-dire, si j'ai Greg, ça va suivre et il n'y aura pas de problème. Mais quand tous les week-ends vous changez d'un côté et de l'autre, vous ne savez plus si le type lié, il n'y est pas, vous jetez un coup d'œil, vous perdez du temps. Le coup d'après, depuis le début de la saison, on est pénalisé, surpénalisé sans arrêt. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au sol, vous tenez votre type, vous flippez d'être pénalisé une fois de plus, donc vous relevez vite, donc vous vous retrouvez avec un mec qui court, qui n'est pas dans la ligne, deux types qui sont éjectés du sol, qui, soit un qui est couché ou les deux on se lève trop vite, le mec il joue son tenue facile en face, et donc évidemment tous ces petits trucs, ben, c'est une seconde ici, une demi-seconde là, on se fait que le tenue d'après, ils arrivent plus vite parce qu'on n'est pas placé. Donc encore plus dur de contrôler le tenu.
C'est fait boule de neige. Voilà,
parce qu'on nous parlait de technique de plaquage, mais rassure-moi, la technique de plaquage, vous avez exactement la même qu'année dernière. C'est la même.
Quand on a un type comme Dallas au milieu qui brosse comme un fou là-dessus, ouais. Il travaille comme un fou là-dessus.
Ils n'ont pas oublié la défense dans l'été. Hein.
Tous les mecs qui sont là pour donner un coup de main aussi. À l'entraînement, dès qu'il y a un problème, on voit Dallas prendre la parole, l'expliquer aux jeunes. Là-dessus, le boulot, on le fait. Mais c'est ça, et la sanction de l'arbitrage et les remaniements non-stop, c'est pas évident.
Ben c'est très intéressant, Cyril, que tu dis. Tu vois, c'est plus compliqué que ce que nous, on voit des tribunaux.
Jean-Marie, moi, j'ai une question à poser aux joueurs. Là. Sur la gestion du jeu, je trouve que, peut-être c'est des consignes que donne l'entraîneur à Casimir Igor, je trouve que vous avez plusieurs séries de plaquages de défense, vous faites, et de suite, quand on récupère le ballon, au bout du troisième tenu, il se dégage du ballon. Je trouve qu'il libère peut-être un peu trop vite le ballon, et de nouveau, vous redéfendez. Peut-être que ça vous fatigue aussi. Et en plus, c'est déficient, il tape le ballon tombe dans les bras de l'arrière. C'est vrai, je ne sais pas si c'est la chance ou pas la chance.
Ça vient aussi du problème de. On n'est pas sûr de notre jeu, on a des difficultés à finir nos chaînes. On sait que tant qu'on les finira pas, on ne pourra pas. Donc on essaie de taper assez tôt pour justement éviter de prendre des relances aussi comme à Huddersfield. Je sais que dès qu'on attendait trop pour taper, il y avait l'arrière, il y avait les deux ailiers, impossible de trouver le sol sur les coups de pied. On pouvait taper où on voulait, ils étaient à 3, à 4 à attendre le ballon. Donc on essaie de taper tôt pour aller jouer chez eux. Et comme il n'y a rien qui nous réussit, ben en même temps, ben voilà, le coup de pied n'est pas bon. Là derrière la chasse, il y a un problème. il y a toujours un petit truc qui fait que on va se le tenu d'après, ben, technique de plaquage ne sera pas assez efficace parce qu'on aura eu peur de l'arbitrage. Et ça s'enchaîne, et c'est tous ces petits détails, mais qu'à la fin, on prend une route.
Je crois que Cyril résume bien la situation. Ce qui manque, c'est tout simple, c'est la confiance. Il faut reprendre confiance. Jérôme Guisset n'a pas perdu en 3 mois ce qu'il a acquis depuis 10 ans. Cyril Gossard, un tel hôtel. Attends, les joueurs ont toujours leur qualité. On ne devient pas mauvais du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc le tout, c'est de reprendre le moral, de reprendre ce que je disais tout à l'heure, de retrouver une stabilité, de retrouver déjà les réflexes, savoir avec qui on joue, ce que tu disais tout à l'heure Cyril, savoir qu'à ta droite tu as Sébastien, tu fais confiance à gauche, et d'avoir toujours les mêmes partenaires. Et là je pense que c'est au niveau aussi de l'encadrement, d'arriver maintenant à avoir une ligne de conduite jusqu'à la fin de la saison pour rassurer les joueurs. Il ne manque que ça. Après les joueurs vont se retrouver. Moi j'en ai assez de lire sur le forum, on critique à droite, à gauche, on se permet de critiquer des joueurs. Attendez, ce que je disais l'autre jour, je sais que je range fortement, mais attends, ouais. Les mecs qui critiquent souvent ne porteraient pas, n'auraient jamais porté le sac à nos joueurs titulaires. On n'a jamais eu autant de joueurs de qualité en France. On a des super français, on a des bons joueurs qui montent, et on est en train de les assassiner. Non, moi je suis pas d'accord. On n'est pas là pour assassiner les joueurs. Ils ont besoin de stabilité et de confiance.
Moi, en tant que joueur, bon, c'est vrai que c'est pas super quand tu sors d'un match que tu te fais huer, quand tu vas dans la rue qu'on te parle de ci, de ça. Mais bon, de notre côté, à un moment donné, tu fais ton boulot. Tu as des supporters qui viennent te voir, qui investissent pas mal leur temps et de leur argent pour venir voir quelque chose. C'est vrai qu'à un moment donné, même en étant un joueur, compréhensible à un moment donné qui est une certaine dose d'amertume et de grogne.
Mais c'est surtout de la déception, c'est plutôt la déception. C'est une réaction de déception.
Ouais,
c'est...
parce qu'en même temps, quoi, lorsqu'on a fait
mais la finale. Mais elle vous fait mal,
quand même. Ouais, mais bon, lorsqu'on a fait la finale à Wembley ou qu'on a fini 3e, qu'on a fait 2 fois les playoffs d'affilée, tout le monde aimait. Enfin, moi aussi, et enfin, tous les autres joueurs aimaient bien qu'on nous tape dans le dos et qu'on nous dise super. Donc c'est vrai que c'est un peu pareil.
Mais ça, Jérôme, si tu veux, les supporters, c'est à chaud.
Au contraire, moi je suis.
Tout de suite après le match, l'avantage qu'on a, c'est que tout de suite après le match, on peut converser à travers l'Internet aujourd'hui et des forums. Donc on peut converser. Alors évidemment, quand tu sors du stade ou quand ils ont regardé sur Orange le match, eh ben forcément, à chaud,
on décharge un peu la haine.
Des critiques négatives de tel joueur, il a manqué le ballon, forcément. Effectivement, le lendemain, quand tout le monde a repris ses esprits, eh ben voilà, on est reparti pour un tour et on va gagner le prochain match. Mais c'est comme ça.
Donc il faut pas. Monsieur Montella, il va falloir modérer alors le forum pendant 2 heures après le match.
Non, mais
c'est
tout
simple.
C'est la liberté.
Le petit train
ça s'appelle la liberté d'expression, mon cher ami.
Interlude là.
Les insultes sont interdites. C'est la liberté.
Et chacun a le droit de s'exprimer. C'est quelque chose de compréhensible en plus, surtout chez nous, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Moi, je sais que j'ai vécu pendant 7 ans à l'étranger, et c'est complètement différent. Les attitudes sont complètement différentes. Ici, on a le sang chaud. Il faut que ce soit le président qui vienne nous voir dans les vestiaires pour nous foutre la pêche. Il faut que la bonne gueulante, c'est du toucher chez nous. Chez les Anglais, c'est complètement différent. Mais bon, à l'inverse, je suis sûr qu'au bout de 3 matchs perdus ou 4 matchs perdus, peut-être l'entraîneur aurait filé. Donc c'est une approche complètement différente. Après, il n'y a pas que des choses mauvaises à tirer de cette saison, même à l'heure actuelle, quoi. C'est la chance pour des jeunes comme Gigot, la chance pour des jeunes comme Barthaud, comme Martin, comme Vacari, comme Simon, tout ça, de montrer un peu, d'apprendre, et surtout de pendant des années, peut-être certains ont dit ouais, mais moi j'ai pas ma chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Maintenant, peut-être c'est leur chance à eux de prendre. De prendre l'affaire à leur compte et de faire vraiment voir de quelle faire ils sont trempés, quoi, je veux dire. Donc
tu dis, Jérôme, qu'on a besoin d'un coup de gueule pour rebondir. Est-ce qu'il y a eu un coup de gueule dans la semaine? Est-ce que Bernard Gouache est venu remonter un peu les bretelles ou pas?
Il y a eu un coup de gueule, peut-être. Non, ouais, c'est vrai que ça ne peut pas le cacher. Ouais. Enfin, c'est devant moi, là, donc...
C'est écrit, on veut l'entendre, en fait. On veut l'entendre.
Non, je pense que... Tout le monde autour de la table, je pense qu'on est bien Bernard. Pour Bernard, les Dragons catalans, c'est plus que la famille. Donc c'est son bébé qui l'a pondu. Je pense qu'il a mis beaucoup d'efforts, à mon avis beaucoup d'argent dedans. Et donc c'est vrai que Ouais, ça sentait en résultat aussi un peu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, quand il voit que ça se passe pas trop mal, c'est vrai que il met des coups de gueule. Certains sont plus fondés que d'autres. Certains sont pris en compte. Et l'année dernière, je pense que on n'a pas besoin de faire un dessin. Il avait mis un coup de gueule après Wakefield et on a failli faire une finale. Donc je sais pas si c'était grâce à ça qu'on s'est bougé le cul ou pas, mais bon, c'est comme ça. Certains tireront des conclusions plus rapidement que d'autres. Mais bon, c'est vrai que ce week-end il a fait pareil. Je pense que, moi, ça me choque pas parce que je connais le système. Je pense que Cyril, ça le choque pas non plus parce qu'il connaît l'homme et connaît le système. Ça peut-être, ça en choque d'autres, mais bon, c'est comme ça. Ouais, on l'a. Enfin, ouais, ouais. Ils n'ont pas l'habitude. Ceux qui n'étaient pas là.
Ils n'ont pas l'habitude, puisque tu dis que.
Avec le micro, c'est mieux.
Ça les a peut-être un peu choqués, mais bon. Non,
parce que comme tu nous dis que ça se passe différemment, notamment en Angleterre, mais en Australie, puisque c'est en Australie. Alors peut-être que ça les choque un petit peu aujourd'hui.
Ouais, ça les choque un petit peu, mais
les
bon.
Les SA et compagnie,
ouais,
peut-être
ouais,
que ça les choque,
ouais, ça les choque un petit peu.
Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle comme ça, c'est ça?
Possible. Ouais, enfin, possible, sûr même.
Bon. Enfin, la critique, déjà, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire il vaut mieux la critique que l'indifférence. Rugby à 13 français, il a été assez longtemps dans l'indifférence. Bon, ben, la critique, elle va derrière. Après, bon, il y a des critiques qui sont constructives. On pose des questions, là, tous. On pose des questions. Après, bon, il y a des critiques, des fois, qui peuvent être... qui apportent rien et qui démolissent. Bon, après... moi, je voudrais en profiter pour tirer le chapeau à tous les joueurs français. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que c'est les joueurs français qui passent devant. Vous passez devant. Sans vouloir mettre des clivages dans l'équipe, il y a des jeunes qui ont fait des rentrées vraiment tonitruantes. Cyril et Jérôme, moi, je vous ai jamais vu rater un match. Être régulier. C'est sûr que bon, ben, les Australiens, les Néo-Zélandais, ils viennent ici, ils doivent s'adapter à la culture catalane qui est, comme tu l'as dit, latine, sanguine.
C'est vrai.
Et ils se font bouger, quoi. Petit Vaccari, il a fait une rentrée de fou. Sébastien Martens, que tout le monde balançait des coups de scie, il fait des matchs de fou, des fois il saute, on ne sait même pas pourquoi. Et à côté de ça, on a l'impression, on connaît tous le rugby, on a l'impression qu'il y a des joueurs étrangers qui ont des gros salaires, on va dire une chose, qui ont un crédit immense. Et ça, à un moment donné, c'est pas bon. C'est pas bon.
Allez, tu parlais de Stephen Bell. Non, c'est un peu...
C'est pas le problème de... C'est pas le problème de citer des noms. À un moment donné, personne ne peut mettre en doute la foi très vite de certains. Le jour où il y aura plus de Français dans cette équipe, on viendra plus, quoi. Voilà. Donc les Français, faut y soutenir. Moi, ça me fait chier quand on critique les Français. Ça me gonfle. C'est tout.
Les étrangers sont là pour amener de valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, quoi. Et ça, c'est quand même assez...
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on est à Sals ce soir, et comment passer à Sals sans trouver The Salséen, Marcelo Moreno, qui est derrière, ancien joueur de Sals, Saint-Hippolyte, qui est donc membre des Dragons de... les Drax de Cléra, et qui est à côté de nous, qui piaffe d'impatience de nous parler. Marcelo, on parle de mal récurrent, plutôt de plusieurs mots récurrents. Pour toi, où est le plus grand mal, justement?
Bien, bonsoir et merci de me laisser la parole. Bon, je viens d'écouter un peu tous les intervenants. Là, c'est super, chacun apporte sa petite critique, donc je vais vous donner la mienne. Au départ, je ne suis pas là pour critiquer les joueurs. Je relève ce qu'a dit le monsieur. C'est vrai que les joueurs français, à l'heure actuelle, c'est ceux qui nous font plaisir. Première chose, c'est vraiment trompé sur les recrues cette année. Ça, c'est tout le monde le voit. Parce que nous avons un jeu très pauvre. Il est très facile de voir le jeu des Dragons. Un gosse de 2 ans le verrait. Nous avons un jeu vraiment qui est stéréotypé. Je veux dire, on joue comme il y a 40 ans en arrière, les clubs de série. On n'est pas capable de passer un ballon, oui monsieur, pas un ballon. Quand on joue dans les centres avec des anciens secondes lignes, on enterre le jeu. Moi, je suis de ceux qui aiment voler, voir voler le ballon à l'aile. Alors, quand vous mettez des secondes lignes qui sont, chez nous, on dit des coffres forts, et on ne peut pas faire vivre le ballon. Le match dernier, à un moment, nous avons joué à 13 contre 12, et c'est là qu'on prend un essai. Alors qu'on était en surnombre, mais voilà, il s'est trouvé une seconde ligne dans les trois quarts, et le ballon n'est pas arrivé à l'aile. Mais là,
excuse-moi, je te coupe juste, oui. Il ne faut pas quand même oublier que le premier, quand on parle des fondamentaux du rugby, oui. Le premier fondamental du rugby, c'est pas d'envoyer la balle à l'aile, hein. C'est
non,
d'avancer.
Pas du tout, pas du tout.
Le
mais
premier fondamental du rugby, c'est avancer.
Quand il manque un joueur, j'y joue toute ma vie au rugby.
La passe, c'est un moyen pour, oui, quand pour on n'avance pas, vite, faire avancer le copain à côté. Mais la base, c'est d'avancer.
Il faut aller plus vite. Donc, si on était 13 contre 12, c'est à ce moment-là qu'on prend un essai. C'est difficile. Maintenant, je me pose la question, moi, la question, c'est sur l'entraîneur. Elle est là, ma question. Les joueurs, on s'est trompé sur le gars, on le sait. Mais l'entraîneur, c'est un problème qui vient de l'an dernier. Il faut se rappeler que l'an dernier, si on ne va pas gagner le match à Sainte-Hélène, on n'est pas qualifié. Et moi, je pense que l'an dernier, on avait fait une très bonne saison, mais ça a été le déclic. Et à partir de ce moment-là, on a vu des joueurs, notamment Beurre, qui nous a fait avancer. Et cette année, il nous manque un génie. Le 7, on le sait qu'il nous manque un 7. Tout le monde le sait. Mais quand il y en a qui veulent venir, on ne recrute pas. Alors, on promène les uns les autres. Franchement, il faut voir, l'équipe n'est pas adaptée au jeu qu'on veut. On est catalan, on veut du jeu. Voilà.
Bon, voilà. Ouais. Les catalans ont toujours aimé le jeu. Et le jeu. Le jeu de... qui va bien.
Donc, oui, je vais juste faire une annonce parce que. Alors, on peut écouter l'émission sur Rugby Forum 13 et sur Contact FM. Alors, le vendredi à 18h et le samedi à partir de midi. Évidemment, demain sur le forum et sur le site. Voilà, merci.
Bon, alors après 40 minutes là, d'émission consacrée au dragon, on va faire une petite parenthèse puisque systématiquement on garde un peu de temps aussi pour parler de la LR, de l'équipe de France, quand c'est le cas. Et là, on a envie de parler un peu de Toulouse Olympique qui a quand même. Pardon ?
Oui, j'ai juste pour clore.
On va y revenir, Pierre. Hein, sur,
ah, d'accord.
On va revenir sur le dragon par la suite, il reste encore 2 heures. Donc, on voudrait revenir sur le succès de Toulouse Olympique à Widnes. Ça, c'est quand même une sacrée performance. Ils étaient pratiquement condamnés à prendre une déculottée, finalement. Ben, ils ont réussi à sortir le match derrière les Fagots, avec notamment, a priori, Cocorico pour les Dragons. Un très bon Vincent Duport au centre, paraît-il, qui a suivi un petit peu cette actualité de près.
Oui, j'ai suivi sur le forum le match de Théo avec un triplé de Vincent Duport. Avait notamment 4 jeunes de, bon, ils disent du centre de formation, Mancarini, ça fait partie des jeunes, bon, c'est pas le centre de formation, a priori, de Toulouse même,
à mais proprement parler,
avec 4 ouais. jeunes joueurs quand même, parce qu'ils ont eu Sylvain Houlès qui s'est blessé juste avant de jouer. Ils ont bien mené, ils menaient presque de 20 points à la mi-temps.
Exactement.
Aussi 20 points à pratiquement 20 minutes de la fin. Et il y a eu un gros retour de cette équipe de Widnes qui vient mourir à 6 points de Toulouse, mais qui a fait mentir les boommakers anglais avec une grosse équipe de Toulouse à contre Widnes.
Surtout que les Toulousains sortaient de 3 grosses défaites quand même, donc
exactement,
de la
maison, exactement.
De plus de 30 points chaque fois. Ouais, donc ils ont eu le mérite d'aller gagner à Widnes quand même, c'est pas le premier venu, c'est un des grands favoris pour la première place.
Les Vikings de Widnes, ouais, voilà, c'est une sacrée équipe qui était d'ailleurs, qui envisageait de monter en Super League, hein. Ils ont été... recalé au dernier moment. Jérôme, Cyril, vous avez des copains catalans qui jouent à Toulouse. Vincent, Mathieu Griffy notamment, Ormenot, qui n'a pas joué avec vous, mais enfin qui est quand même catalan. L'ailier Sébastien Payan et Domenic Carini maintenant. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce qu'ils vous parlent un petit peu de Toulouse?
Enfin, moi, pas plus que ça. Non. C'est vrai que je suis de naturel assez discret. Je rentre à la maison, c'est plutôt la vie de famille. Le rugby, j'essaie de mettre un peu entre parenthèses, vu qu'on en mange quand même pas mal la semaine. Je suis content de les retrouver quand on se voit en équipe de France, que ce soit Mathieu ou Vincent. Après, les plus jeunes, je les connais moins. C'est vrai que j'ai pas évolué avec eux. Moi, je connais mieux donc Mathieu et Vincent. Mais c'est vrai que non, on se côtoie pas comme ça au quotidien, mais on est content de se retrouver quand on se voit.
D'accord. Jérôme
Moi, je suis assez similaire à Cyril, mais c'est vrai que j'ai gardé un peu de contact avec, comment il s'appelle, avec Vince Duport, parce que c'était tout simplement mon voisin de vestiaire quand on était au Dragon. Donc c'est vrai que je l'ai eu là sur Facebook il y a de ça quelques jours, donc c'est vrai qu'on garde un peu contact. Mais après les autres, comme dit Cyril, c'est vrai que tu vis ta vie Non, tu vis ta vie de rugbyman et après quand tu rentres dans la maison, c'est vrai que
les femmes et les enfants. Hein.
Non, mais tu suis, vous suivez les résultats quand même.
Oui, les résultats, ouais, oui, bien sûr.
On est
bien
d'accord. Voilà. On n'est pas au téléphone. Donc il n'y a pas d'échange entre le Théo et les Dragons. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échange parce qu'il y avait des joueurs, si on avait bien compris, qui auraient pu jouer aussi au Théo. Aujourd'hui, bon, vu les blessés, on a bien compris qu'ils n'iront pas. Hein, mais il n'y a aucun échange avec les joueurs. Alors vous ne les rencontrez pas.
C'est Toulouse quand même. On est, c'est à 200 bornes.
D'accord, ok.
En plus, donc,
Et juste pour rebondir sur ce que vient de dire Cyril, qui est tranquille après les matchs, on sait qu'il a la réputation d'être le joueur pratiquement le plus sérieux des Dragons, notamment avec une hygiène de vie. Non, mais il faut le dire, avec une hygiène de vie très sérieuse.
On est tous.
Et je voulais lui dire que ça se reconnaît sur le terrain quand même après, parce que quand il joue 80 minutes, il les tient et là, tranquillement.
Ça se reconnaît sur le t-shirt aussi quand même.
Tranquillement. Ça se reconnaît sur le t-shirt.
Ouais, c'est un failleux, Olivier. Il est tout à la même chose à tous les jours qui passent, quoi.
Exemple sur Harvey.
Et d'ailleurs, on en profite pour lancer un petit clin d'œil à nos amis toulousains qui espèrent un jour nous voir débarquer dans la Ville Rose pour animer une émission et parler longuement du Toulouse Olympique. Et on leur promet qu'on passera. Il faut vraiment qu'on s'organise et on essaiera de passer avant que l'été arrive.
Et on peut leur souhaiter une certaine constance dans les résultats, parce que bon, ils ont gagné à Widnes, c'est bien, mais bon, maintenant il faut obtenir d'autres bons résultats.
Un tour de coupe extrêmement difficile, hein. Voilà. Alors je sais pas comment ils vont y aller, Bon, nous on n'a pas l'habitude de mettre les équipes réserves, hein. On pratique pas le même rugby que d'autres, hein. Mais j'ai bien peur quand même que ce soit très difficile pour eux. Voilà, sur Toulouse.
Et vous deux, vous seriez actuellement joueur de Toulouse, vous iriez à Saint-Hélens le week-end prochain, dans quel état d'esprit vous pensez que vous seriez?
Sincèrement, il faut en profiter. Pour eux, c'est une occasion de se frotter au gratin, ce qui se fait de mieux au niveau mondial quasiment. Donc je veux dire, il faut profiter et puis voilà, il se passera ce qui se passera après le terrain. On le sait bien, l'année dernière, on était donné comme les losers, on devait aller prendre une fessée à Saint-Hélens. Au final, on va là-bas, on leur met bien. Et quand on devait aller à Huddersfield, j'ai eu de la famille, moi, donc c'est... Après Wakefield, on m'a dit oui, c'est jouable, peut-être Wakefield. Avant d'aller à Huddersfield, on m'a dit vous allez prendre une rousse. Et c'était vraiment la famille proche. Hein. Ils m'ont dit, autant je me suis régalé, autant là, j'y crois pas. Alors, on est revenu de Huddersfield, pareil. Donc chez eux, ils avaient les larmes aux yeux, et à la fin, ici, on était contents. Donc, sur un match, après.
Est-ce que tu n'es pas en train de nous dire que Toulouse pourrait créer la surprise de battre Saint-Hélène chez lui?
Pas jusqu'à là, mais... Ils s'accrochent et puis voilà, ils vont faire un gros match, je pense qu'ils seront satisfaits.
Si c'était joué avant, on ne jouerait pas. Hein. Exactement. Puis, en rugby à 13, il y a tellement de surprises que, allez, on ne sait jamais s'ils ont 10% de chance de vaincre. Le Cunningham et une gastro-entérite, et Wellens chope une crise de migraine juste avant, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais.
Ils sont satisfaits, contents de leur match après.
Exactement, voilà, qu'ils donnent le meilleur, qu'ils en retirent justement plein de bénéfices. Olivier, autre chose?
Mais écoute, moi je voulais parler aussi un petit mot des équipes de France cadets, notamment, des moins de 16 ans, qui sortent de deux victoires magnifiques. Donc France et Pays de Galles avec une victoire à 54-6, excusez du peu, qui a été suivie aussi par cette équipe de moins de 16 ans, par une victoire sur l'équipe d'Angleterre à 19-16. Donc je pense qu'il y a une sacrée jeunesse là qui se prépare pour le 13 français. Et en suivant, les moins de 15 ans ont aussi battu l'équipe du Pays de Galles à 14-10. Donc je sais que ton fils apparemment a envoyé un anglais au Rosebif à l'hôpital sur le premier plaquage. Apparemment ça a refroidi un peu nos amis anglais, mais bon, c'était un plaquage à la régulière, hein, en travers, bien comme il faut. Donc bon, mais voilà, il a participé à la victoire française sur tu es trop modeste pour le dire, mais je sais qu'il a fait un bon match.
Allez, et pour être complet, hein,
c'est un plaquage à Jérôme Guisset, il a pris
pour être complet, j'ai reçu un petit mail de Louis Bonnery avant de partir pour Madrid, d'ailleurs il vous salue bien.
Fois, voilà.
Et qu'est-ce qu'il, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, il nous annonce que samedi va se jouer la première édition de la Coupe et Championnat du Trophée Raymond Chézat, que tout le monde connaît, l'ancien maire de Carcassonne. Et le programme est le suivant. À 15h, il y aura la finale de la Ligue, c'est les juniors, hein, Aglifenouillet contre Toulouse. Et à 17h, il y aura la finale Ligue IE sur Tech contre Sals.
Allez,
ça, c'est à Clermont. T'avais bien fait de répondre à IE, toi.
Si tu me refasses, voilà. René, celle-là. IE sur quoi?
Sur Tech.
Sur Tech. Oh, bravo, René. IE sur Tech.
Sur Tech, allez, sur Tech, allez.
Allez, on... Pauvre Jean Gallia, c'est terrible.
Il est sur Tech. Bon,
je crois qu'on a oublié aussi que la semaine prochaine, Lézignan, le Feuseleux, notre cher Feuseleux, va jouer à Widnes aussi.
Exactement.
Un coup, qui reçoit Ali. Donc, je crois que ça, c'est deux superbes affiches. Je crois qu'Ali Mou aussi, ça vaut le coup d'aller faire un tour d'image, de s'y rendre. Parce que Ali aussi est une très très bonne équipe. Et Ali Mou qui a le vent en poupe. Je pense que, puisque nous parlions de la Cup, c'était bon de rappeler.
Exactement.
Ces deux excellents rendez-vous pour nos clubs de l'Aller.
Il y a peut-être un coup à jouer là, non? Vous ne croyez pas sur un match? Les Ivoirs. Pierre Verger, si c'est pas. Sur quoi?
Sur Arles, sur Tech.
Ah ben, ce que je disais tout à l'heure, un match il est jamais joué d'avance. À Lézignan, il y a beaucoup de qualité. À Limoux aussi, ça fait plaisir que au niveau de l'Aude, en plus beaucoup de public sur les derniers matchs. Bon, on voit que pour rester plus général, que la locomotive Dragon fait du bien à tout le rugby à 13 français. La formation a l'air de d'embrayer dans le bon sens avec les victoires des catégories jeunes. Ben tout ça, c'est très bien. Moi, j'en profite pour dire aussi que le projet Ambition Dragon est un très très bon projet mené par Bruno Cassani qui connaît vraiment bien son boulot. Donc voilà, bon, il n'y a pas de raison pour que on tombe dans la sinistrose.
Alors, pour Ambition Dragon, justement, on a reçu aussi aujourd'hui, on communique comme ça par mail. Alors, lundi à 19h, hein, il y a la présentation d'Ambition Dragon et de tous les jeunes au stade de Gilbert Brutus, hein, avec une réception, avec les partenaires, les photos, voilà, voilà. Alors, donc, si vous ne savez pas quoi faire lundi à 19h, venez à Brutus.
Mais de toute façon, tous les jours, nous vivons Dragon, donc on y sera.
On était parti sur la LR, on est revenu au Dragon.
Pour en revenir à Limoux, ils ont de bonnes chances de passer. Mais il faudrait qu'ils fassent un grand match quand même, surtout en jouant à la maison. Les Ignans, ils auraient joué chez eux, je pense qu'ils avaient aussi des chances de passer. Là, ce sera plus mais difficile.
C'est jamais, quand on mais connaît Aurélien Colony,
ils ont le droit de savoir avec Aurélien Colony.
Il va trouver le mot juste pour les sensibiliser.
Et Betty qui joue encore.
Ouais, Chris peut-être va mettre le maillot, mais ils vont le sensibiliser, ça c'est sûr. Et puis souvenons-nous aussi il y a 3 ans en arrière, un certain Limoux Wigan en Cup où Limoux avait bien figuré. Je crois qu'ils avaient perdu qu'une vingtaine de points, comme quoi bon, ouais. Wigan peut-être n'avait pas trop appuyé sur le champignon. Il faut toujours est-il que bon, il y avait un score assez honorable. L'émission c'est aussi des questions de forumistes, et là on a un grand spécialiste, René Montala.
Alors les questions. Alors évidemment, dès qu'on a annoncé la venue de Jérôme Guisset, les questions, elles ont plu comme à Gravelotte. Hein. Alors, la première, c'est marrant parce que et qui est un représentant de la fédération, c'est intéressant, parce qu'on va vous parler de l'équipe de France. Non, mais il y en a aussi. Oui, il y en a aussi. Oui, t'inquiète pas. Donc, alors, il y en a deux qui reviennent tout le temps, comme je dis. Alors, d'abord, ta reconversion. Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu l'as déjà préparé? Je sais très bien que ta carrière n'est pas encore finie.
Mais ça commence.
Et puis il y en a une autre. C'est est-ce que c'est réellement fini avec l'équipe de France? Et il y en a un qui dit, eh ben, vous manquez à l'équipe de France, et l'équipe de France nous manque-t-elle pas?
Monsieur Montala, les noms des forumistes, s'il vous plaît, c'est important.
Alors, c'était Passionné 13 qui nous a écrit ça.
De Madrid.
Scarface. et Pilou, voilà.
Première question, la reconversion, ouais, c'est quelque chose que maintenant je commence à toucher du bout du doigt parce que j'arrive un peu au bout du rouleau.
Entraîneur de Dragon. Entraîneur de Dragon.
C'est vrai que on verra.
Là, c'est pas comme le politique. Là, il n'y a pas de langue de bois.
Non, du tout. Non. C'est vrai que bon, c'est quelque chose que j'ai pas trop pensé au début de la carrière. Hein, mais bon, c'est vrai aussi que c'est quelque chose que dans certains clubs on tape en proto quand t'es joueur professionnel. C'est vrai que quand t'es joueur professionnel, tu penses d'abord à jouer. Et malheureusement, pas trop à ta reconversion. Maintenant, j'ai été à temps d'y penser il y a quelques années. Donc c'est vrai que j'ai passé tous les badges d'entraîneur ainsi qu'une préparation, qu'un diplôme de préparation physique. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis prêt à ouvrir le parachute. Maintenant, j'ai écouté un sketch de Coluche. Quand j'étais dans la voiture, là, il disait qu'en France, c'est pas tout d'avoir les bagages, il faut savoir où les poser. Donc maintenant.
Donc tu veux rester en France, hein.
Avis au club, hein, avis au club.
Ouais. C'est vrai que à l'heure actuelle, je suis un peu comme vous autour de la table. Je vis Dragon, donc c'est vrai que si d'aventure je comptais me reconvertir quelque part, ce serait les Dragons qui seraient mon premier désir. Maintenant, va falloir savoir ce qui va se passer. Par ailleurs. Il reste encore 16 matchs. Donc, dans la reconversion, c'est le deuxième chapitre. Le premier, c'est de finir la saison très bien.
Et pour l'équipe de France, alors, est-ce que l'équipe de France te manque et tu manques à l'équipe de France? Alors, les supporters souhaiteraient savoir si c'est définitif.
L'équipe de France, c'est pour moi un chapitre qui est clos. C'est vrai que j'aurais aimé finir d'une façon complètement différente. Finir avec un 4 nations, avec le 4 nations, c'est vrai que ça aurait été... quelque chose de super. Je voulais arrêter incessamment sous peu. Donc c'est vrai que l'année dernière j'aurais peut-être annoncé ma retraite. Maintenant j'aurais aimé que ça se fasse d'une façon un peu différente. Mais bon, l'histoire on peut pas la faire en arrière, la refaire. Donc c'est vrai que maintenant j'ai dit que j'arrêtais, donc ce sera mon dernier mot, comme on dit au chiffre célèbre.
Mais Jérôme, il me semble que tu as encore un contrat sous un an de plus, non, au Dragon?
Non, ça y est, là, c'est 2010, c'est ma dernière année.
Ah, tu arrêtes, c'est défini. Ah,
non, je suis hors contrat.
Ah, mais tu peux discuter encore pour
signer un an.
Ah, d'accord, voilà, tu nous as fait peur, là.
Bien sûr.
Si tu continues, tu comptes continuer combien de temps?
5 ans, pas plus.
5 ans, c'est bien. Et après rejoindre Patrick Torreille à Sals, voilà, pourquoi pas? Allez, c'est très bon. Tout à l'heure, il parlait en off, on l'écoutait, il y a des choses qui ont filtré, là, on a cru comprendre ça. Donc, on annonce ce soir Jérôme Guisset à Sals dans 5 ans.
Voilà. Alors, une question pour Cyril. Bon, il vient de nous annoncer que c'était un fait. On vient de savoir que c'est un garçon qui restait chez lui. Alors, que pense-t-il de l'image que donnent les joueurs sur le terrain? Et je rajoute, en dehors. Alors, c'est Pilou qui a posé cette question.
Il s'en fout, il n'en parle pas, il a dit tout à l'heure.
Je vais enchaîner sur une. Parce que j'ai l'impression qu'on te considère comme un ancien. Compte-t-il prendre ses responsabilités d'ancien en s'affirmant comme un meneur?
Alors, pour l'image du joueur sur et hors du terrain. Bon, à part, je crois, cette année où il y a eu quelques dérapages. C'est vrai que là, c'est pas le plus facile pour rebondir. Là,
il y a eu quelques dérapages. T'es pas concerné.
Ouais, je suis pas concerné, non, c'est sûr. Enfin, donc voilà. Donc c'est vrai que bon, il y en a déjà 3 qui sont complètement blanchis, donc ça montre bien qu'ils n'étaient pas là pour chercher l'histoire. Après, pour les deux autres, il y a encore des histoires, parce que déjà leurs agresseurs, entre guillemets, ont déjà eu des problèmes. Ils risqueraient la prison sur ce coup, donc il y a les avocats qui ont repoussé le... Enfin, donc je sais pas trop où ça en est, je veux pas m'en mêler non plus. Donc bon, c'est clair que là, l'image a été un peu froissée. Surtout cette année, voilà, il y a des années ça, et j'ai l'impression que cette année, il n'y a rien qui va. Donc là, ça fait partie. Avant ces soucis-là, je pense pas qu'on ait eu à se plaindre de nous. L'ambiance est bonne dans le groupe. Quand il y en a qui commencent à tirer un peu de travers, en général, il y a tout le temps un pour le ramener un peu sur le droit chemin. Donc, je veux dire, à part les... cette année, je veux dire, à part ça, j'ai été plutôt content.
Oui, c'est pas moi qui les pose. Hein. Alors, une autre de notre ami Romu. Alors, Romu, bon, à celui qui veut répondre. Hein. Alors, donc, messieurs, hein, à celui qui veut.
Romu, résident de Ille-sur-Tech.
Ille-sur-Tech. Quelles sont les relations joueur-entraîneur? Déjà, la première.
Ça, c'était
Et oui, je sais, mais peut-être qu'ils vont nous répondre. Hein. Et pourquoi le paquet d'avant des Dragons n'est plus dominateur? Mais je crois qu'on a déjà répondu à celle-là. Hein.
Ouais,
quelles sont les relations joueur-entraîneur? Pourquoi le paquet d'avant des Dragons n'est plus dominateur comme les années précédentes?
Parce que Jérôme Guisset vieillissant.
Ça c'est Romu, hein, de Bagnous.
Bon, pour l'histoire du paquet d'avant, c'est un peu ce qu'on a résumé tout à l'heure. Entre le manque de confiance, c'est vrai que la patrouille siffle beaucoup, enfin, on va pas y revenir. C'est vrai que... Bon.
Non. Après... Non, surtout pas, attends. Non.
Après, vous faites...
Les gens ont fait l'effort de venir écrire et répondre. Attends. Alors, et les relations, relations joueur-entraîneur, en ce qui me concerne, moi, et je vais parler.
Les préparateurs physiques, on va te mettre à l'aise. Comme
je vais parler qu'à mon nom, oui. Que ce soit avec Mick à l'époque et maintenant avec Kevin. Moi, c'est des consignes sont simples. Il y a un plan de jeu, on te dit ton boulot, c'est tu mets la pression sur un tel et voilà, moi je fais mon boulot, je cherche pas plus. Que ce soit avec Mick ou avec Kevin. Je suis assez rigoureux là-dessus. On me demande ce que j'ai à faire. J'essaie de m'y appliquer.
Mais, et après, mais la question était orientée plutôt sur un plan relationnel, c'est ça,
oui,
René?
Bien sûr,
hein,
bien sûr.
Ouais. Est-ce qu'il y a de l'affect? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est aussi froid qu'Harry Potter?
Non, froid qu'Harry Potter, c'est plus, c'est impossible. au moins, ça l'est quasiment forcément. Donc oui, c'est moins froid qu'Harry Potter, c'est sûr. Donc on craint à Potter une séance de vidéo et tout le monde qui faisait de lui, là. Donc... bon, là, on fait de l'huile parce qu'on sait que ça va pas être agréable, étant donné ce qu'on sait qu'on va y voir, ça sera pas forcément positif. Mais non, ça a rien à voir. Enfin, je sais pas pourquoi.
Jérôme,
ouais, alors c'est vrai que c'est. Les relations, le problème qu'il y a, c'est que quoi qu'il en soit, l'entraîneur, c'est le boss. Donc, et ça marche toujours avec les résultats. Donc c'est vrai que des fois. Quand tu gagnes, la relation est super, et quand tu perds, là en ce moment la relation elle est pas super parce que peut-être lui aussi il a un peu les pieds dans la gadoue, donc les décisions qu'il prend peut-être ne sont pas tout le temps fondées. Donc c'est vrai que, comme il disait Cyril, les relations sont bonnes si on gagne, si on perd c'est un peu différent.
Jérôme, moi il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a 2-3 mois j'étais passé vous voir à la muscu. Déjà je sais que des fois vous avez des séances assez tôt le matin. Alors je pense que pour vous c'est assez pénible déjà de pousser de la fonte et de transpirer dans cette salle là-bas. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait rien là-dedans. Alors je me suis dit, mais pourquoi ces joueurs, ils sont jeunes, hein, d'habitude ils mettent la musique, quand tu vas muscu, tu vas dans toutes les salles muscu, il y a de la musique. Et puis, je ne dirai pas le nom, mais j'ai su qu'un préparateur disait, mais non, on ne met pas de musique parce qu'on ne met pas de musique. Mais alors, à ce joueur, je lui dis, mais tu es un entraîneur, tu peux lui en parler calmement, parce que ça fait partie, je trouve que ça fait partie de la vie du groupe, ça, de mettre la musique, de mettre les tenues roses quand vous mettiez Kanivetchani. Tout ça, c'est la vie de groupe. Et d'empêcher des joueurs de faire de la muscu, c'est assez chiant comme ça, excusez-moi du mot, mais de vous empêcher de mettre la musique, et moi, si je suis vous, là, les anciens, je me mets le CD sur l'épaule avec le poste, j'arrive à la salle et je mets la musique. Une fois que vous avez pris que vous avez écouté le préparateur, ce qu'il vous a dit, le boulot que vous avez à faire, si vous avez envie de mettre la musique, mettez de la musique. Et puis attendez, non,
t'es un révolutionnaire toi.
Non mais attendez, mais la vie de groupe, qu'est-ce que tu en fais? On dirait un enterrement quand il faut de la muscu.
Moi je voulais parler.
Non mais Jérôme,
ah c'est vrai que là c'est un peu insensible, c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Ça s'est un peu assoupli.
Ça, c'est un peu assoupli à l'heure actuelle.
On a des objectifs à atteindre si on veut
voilà,
la musique.
Voilà. Des objectifs qui sont, durs. En période de victoire, ils sont facilement atteignables, mais à l'heure actuelle, on les atteint pas trop. Non, mais c'est vrai que c'est la façon dont se comportent certains individus, certaines personnes. L'ancien préparateur physique était musique, celui-là l'est pas.
Il veut juste attendre la fonte.
Potter était très strict. Walter, c'est plus. Est un jeune un peu plus souple. Donc, c'est vrai qu'il faut faire avec tout le monde. Donc. C'est comme ça, il faut s'habituer. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui aimeraient avoir la musique, mais bon, d'un autre côté, l'année dernière, on l'avait pas non plus, et on a failli faire une finale. Donc,
oui. Ça fait partie de la discipline.
Bon, voilà. La semaine dernière, on parlait avec Olivier Lima, et il y avait un problème, d'après lui, sur l'ambiance générale, avec les joueurs blessés. Alors, Lima disait que les joueurs blessés, ils venaient de 7 à 8 heures du matin, par exemple, et après, vous ne les voyez plus de la journée. Vous ne voyez plus. Et il disait que ça faisait mal à un joueur comme Grenchill, qui n'a pas le moral en ce moment. Et il disait qu'il se sentait mis à l'écart et il n'arrivait pas à se remettre. Alors qu'il disait que lui, à Wakefield, quand il jouait, les blessés faisaient partie, ils restaient avec les titulaires ou ceux qui continuaient à s'entraîner. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là?
Un problème, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y est. C'est vrai que, moi personnellement, je pense pas que ce soit trop simple pour un joueur d'être complètement écarté lorsqu'il est blessé. Maintenant, il y a des cas au cas par cas. Clint à l'heure actuelle, il est en béquille, il peut rien faire du tout.
Il a des soins.
Donc, il a des soins. Donc, à part que lui, il se prenne main dans la main et qu'il vienne nous voir, nous entraîner, après, il peut vraiment participer aucunement avec tout ce qu'on fait, à part lorsqu'il sera déplâtré, qu'il pourra commencer à trottiner. Mais c'est vrai que lorsqu'on est blessé et qu'on doit venir s'entraîner de 7 à 8 avec les autres blessés et qu'après le reste de la journée on l'a à soi-même et on est complètement à l'écart du groupe, c'est vrai que c'est pas le mieux. Surtout que mentalement, si on n'est pas trop fort.
Oui, qui c'est qui veut rajouter quelque chose, Cyril ?
Ben non, c'est vrai que c'est... Bon, après, il y a aussi le problème technique, entre guillemets. C'est-à-dire s'il y a des soins à faire, il faut pouvoir aller les faire au cabinet du kiné, il faut que ça soit ouvert, donc...
René, est-ce qu'il reste que des questions encore pertinentes ? Elles sont toutes pertinentes, mais est-ce qu'il y en a une qui surnage ? Elles sont toutes... Prends le micro, René, prends le micro. Il n'est pas habitué à prendre le
micro. Alors, encore une autre pour Jérôme. Alors, peux-tu nous parler de ton passage à Canberra et de ce que tu as appris, de l'environnement de ce club, alors c'est important, de l'environnement de ce club, et quel regard portes-tu sur la NRL ? Parce que là, c'est une question de Dédé. Alors, Dédé, il est parti quelques mois en Australie, il est parti quelques mois en Australie, et puis quand il est revenu, eh ben, il a trouvé notre organisation complètement nulle, enfin, je parle au Dragon, il a voulu comparer un petit peu ce qui se fait à NRL avec ce qui se fait au Dragon. Non, je ne sais pas si c'est comparable, mais je pense que Jérôme, lui, il a peut-être un avis différent. Est-ce que vraiment on est loin d'eux ou
non, les rattraper loin, on n'en est pas. On n'en est pas loin sur les techniques d'entraînement et tout ça. Là où on en est loin, c'est sur le fait que le rugby à 13 là-bas, c'est le foot ici. Donc c'est leur vie. À l'heure actuelle, on n'a pas encore le réservoir en France qu'ils ont. On a peut-être un réservoir plus petit en France que ceux qu'ils ont eux dans un club. Donc c'est vrai que par rapport à ça, par rapport aux moyens qu'ils ont, aux moyens techniques, aux moyens des entraîneurs, aux moyens financiers, c'est le jour à la nuit. Maintenant, croyez-moi que le fossé il s'est grandement refermé, parce que moi quand j'y suis allé, c'était l'époque de Saint-Estève 13 où on s'entraînait deux, trois fois par semaine, où on avait un seul entraîneur, où c'était vraiment le sportif du dimanche, quoi. Alors que maintenant quand même on est dans une structure professionnelle où c'est complètement différent, bien qu'on a encore, le fossé est encore grand, on a encore de la marge pour pouvoir avancer.
Tout c'est de progresser, quoi. Si on progresse, ça va. Maintenant, si on n'avance pas, évidemment,
exactement,
on aura des soucis. Hein. Voilà, mais c'est tout pour les questions. Pour les joueurs, par contre, j'en ai une pour notre représentant.
Qui est bien calme ce soir, on va le réveiller.
Et une autre pour Pierre Vergès, tiens. On va d'abord lui poser la
question. Le décalage horaire des tropiques.
Pierre, c'est passionné, 13 qui te... Pierre, qu'est-ce que tu deviens ? Alors, on va pas revenir parce qu'il me dit « Comment voit-il la saison ?» C'est un critique. Pierre, régale-toi, Pierre.
Qu'est-ce que je deviens ? À quel niveau ? Rugbystiquement ? Sentimentalement ?
J'ai essayé de me lancer dans la chanson.
Voilà.
J'ai sorti un disque, mais ça n'a pas marché.
Ben écoute, je suis responsable pédagogique du centre de formation Sport Méditerranée, où entre parenthèses on fait travailler des jeunes rugbymen 15istes et 13istes ensemble. Je suis également responsable pédagogique du camp des Dragons, où les joueurs ont la gentillesse de venir nous voir tous les étés, être super disponibles pour les gamins et qui les regardent avec les yeux pleins d'étoiles, et je profite qu'ils sont là pour les remercier. Et puis voilà, et après, pour le reste, je continue à refuser des propositions d'entraînement du côté du rugby à 15. Parce que j'ai fait le tour de la question, je me suis éclaté avec les filles de Toulouse, où j'ai gagné une finale au Stade de France. Et c'était vraiment super, mais bon, voilà, j'aime le rugby, j'aime les deux rugby, mais je suis avant tout résiste, et puis voilà. J'espère qu'un jour, il y aura un projet, s'il y a un projet dans le rugby à 13, je le prendrai avec plaisir.
Dans ton centre de formation, qui était assez discipliné, qui est passé à Villeneuve de la Rao, c'est bien ça ?
Absolument.
Voilà. Aujourd'hui, il me semble que vous allez vous occuper du centre de formation des Dragons. C'est bien ça ou pas, Pierre ?
Alors là, non, pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Il y a peut-être un rapprochement avec Bruno Castagni, oui, qui était avec nous, qui est cofondateur du centre de formation pour Méditerranée. Mais pour le moment, moi, je suis responsable pédagogique, donc il y a des dirigeants. Il y a André Gival.
On a parlé du mois de septembre pour mettre en place le centre de formation des Dragons, non ?
Pour le moment.
Vous n'êtes pas partie prenante ?
Pour le moment, non. Pour le moment, que je sache, non. Voilà.
Pierre, pour finir, donc.
Ceci étant dit, pour René, un vrai centre de formation au niveau des Dragons est incontournable. C'est-à-dire un vrai centre de formation avec un agrément que nous a refusé l'ancien directeur technique national, qui est Poulard, Bonvent. Hein, qui, voilà. Aujourd'hui, il a refusé pour des raisons politiques. Le Dragon aurait un centre de formation à agréer de la jeunesse et sport avec des subventions. Merci Jean-Éric Ducoin. On va pas parler des absents, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, bon, ambition Dragon, c'est super. Il faut aller plus loin.
Donc, et puisque ça concernait ta vie complète, parce qu'apparemment la question, ta vie sentimentale.
Je fais un bisou à Pascal avec qui je suis, qui m'écoute.
Voilà, c'est ce que vous
savez. C'est ça que vous voulez me faire bien.
Une question à monsieur Guiraud.
Je suis
obligé de chausser mes lunettes.
Mais
hein.
Non.
Cette question est du même internaute.
À qui donc? Elle est adressée à qui?
C'était. Ah, ben c'est Pilou toujours.
À moi?
Alors, Hervé.
Moi, je
peux revenir à une. Écoutez bien, parce que toi,
moi, je deviens autre, bien.
Hein. Après, tu ne dis rien. Ton président t'interdit de parler, c'est ça?
Non, nous sommes un deuxième pays, en démocratie.
Revenir. Allez, Hervé, va-t-on revenir à une formule proche de ce qu'on a pu connaître avec le Trophée des As dans les années 90, avec une refonte encore de l'élite 2? N'est-ce pas indisible en termes de médias, de partenaires, ainsi que pour les clubs, de changer tous les 2 ans de formule?
Déjà changé de 2 ans de formule, je crois qu'il y a très longtemps que la formule est en place. Hein. Le projet, moi encore, je ne peux rien dire, puisqu'il y a une réunion prévue le 24 avril à Lézignan, le samedi après-midi, avec tous les présidents d'élite, justement, pour plancher sur l'avenir du championnat français. Donc, que dire d'autre? C'est vrai que le jour où nous aurons les clubs qui auront assuré leur stabilité et que nous pourrons avoir une lisibilité sur 7 ou 8 ans, c'est sûr que ce sera plus facile pour aller trouver à côté des partenaires commerciaux et des sponsors. Dans l'immédiat, bon, moi je parlerai du présent. Moi je trouve qu'on critique beaucoup cette ère, mais que le championnat cette année est intéressant. Nous allons nous retrouver au dernier match du championnat et encore on ne connaît pas tous les qualifiés. Il y a un match encore qui risque de se jouer au Golavérage, pour vous dire quand même là, comme les équipes sont proches. Et c'est vrai que tous les ans il y a des équipes bon, qui souffrent en fin de tableau. Bon, cette année c'est Saint-Gaudens, c'est Avignon. L'an dernier Avignon avait fait une très bonne rentrée en l'air. Donc je crois que ce que disait tout à l'heure Pierre Vergès, il faut arrêter aussi toujours de penser au pire. Il faut regarder, faire l'état des lieux de nos clubs. Le championnat l'air s'est bien déroulé cette saison. La saison dernière, nous avons vu 2 grandes finales avec 2 succès populaires. Je pense qu'il en est de même. L'effet Dragon étant là aussi, on a vu que dans le petit département à côté, les clubs de l'Aude se sont remis en selle, remis au travail. Et il y a un très bon travail qui est fait dans l'Aude. Donc, avec des clubs forts, des clubs qui ont de l'ambition. Et voilà, donc... Un championnat, oui, c'est vrai, une poule des As, pourquoi pas, mais une poule des As, ça dure un mois. Et après, il faut assurer la pérennité du championnat. C'est pas évident. Et en plus, il ne faut pas oublier que cette saison, il y a les 3 semaines avec la Coupe d'Europe, donc aussi en octobre, qui vont arriver. Donc là aussi, il faut que les présidents aient une pensée. Est-ce qu'il va falloir arrêter le championnat pendant 3 semaines? Est-ce qu'il faut le commencer avant? Est-ce qu'il faut le commencer après? Donc beaucoup de questions que nous allons nous poser et travailler collégialement, dont le 24 avril à Lézignan.
Il prend tout le micro, mais quand il le prend, il ne lâche plus.
C'est que la question était intéressante.
Ah ben, il y en a une autre intéressante aussi. Bon, mais on va.
Allez, vite fait, on va vite faire.
C'est la dernière. Non, on va parler de la Coupe d'Europe 2010.
Elle est pour moi. Ah, la Coupe d'Europe 2010.
C'est important quand même. Bon, on a 3 rencontres.
Nous en avions parlé, je crois, non?
Pardon?
Nous en avions déjà parlé.
Non, je pense qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de France-Irlande qui va se jouer à...
Mais normalement, les terrains sont arrêtés. Moi, j'ai lu, quand vous me permettez de rentrer sur le forum, un petit quart d'heure, je vais lire. J'ai vu que des personnes étaient impatientes, oui, que nous n'étions pas capables de donner les terrains. Moi, je crois qu'en France, ce n'est jamais très...
Nous connaîtrons tous début septembre.
Voilà, ce n'est jamais évident de trouver un terrain parce que les terrains sont municipaux. Souvent, il y a des conventions signées avec des sports majeurs, comme le rugby à 15, où la Ligue impose des dates. Donc, si vous voulez, nous, on est toujours, lorsqu'on demande des terrains, lorsqu'on a choisi des terrains.
Monsieur Bonnery impose des dates?
Pardon ?
Louis Bonnery impose des dates ?
Non, je veux dire, lorsque nous impose des dates, déjà, dès que nous connaissons les dates de l'International Board, nous, derrière, il faut trouver des terrains, il faut savoir. Mais les terrains ne nous appartiennent pas, ils n'appartiennent pas à nos clubs, donc il faut travailler avec les municipalités. Trois fois sur quatre, la municipalité vous adresse vers le club avec qui ils ont un signe de convention, alors soit un club de foot, soit un club de rugby à 15, donc il faut rentrer en négociation avec eux, savoir, alors on est bloqué par le...
Pourquoi avoir laissé tomber Paris cette année ?
Parce que pourquoi attendez au bout d'un moment, la fédération est soumise à un seuil de rentabilité. On a choisi de le jouer dans le sud parce que le rugby à 13, bon moi attendez, c'est le sud. En Angleterre c'est le Lancashire. Bon, mais chez nous c'est le sud. C'est ce périmètre qui nous amène un public. Ce que je vous disais l'autre jour, on vient de passer un contrat donc, avec une chaîne Direct 8 qui est quand même une chaîne généraliste. Donc c'est très important. Donc, là aussi, nous sommes obligés d'essayer d'amener le maximum de personnes. Sur Paris, il y a eu du monde pendant 2 ans, mais Paris, si vous voulez, c'est chaque fois que nous faisons un match à Paris, c'est à caractère publicitaire et promotionnaire. Donc, il faut savoir que match sur Paris ne rapporte rien à la fédération. Au contraire, c'est de l'argent qui est injecté au niveau publicitaire. Donc là, la Coupe d'Europe est telle qu'il faut essayer de dégager quand même quelques... Il faut payer la Coupe d'Europe et l'idée c'était de travailler donc, sur nos acquis. Donc, le Four Nations à Toulouse a été un succès. Il y avait très longtemps que je crois on a fait pratiquement 18 000 personnes et qu'il n'y avait pas eu autant de monde pour un majorité de BA13. Narbonne, c'est une région quand même intéressante, c'est le Languedoc-Roussillon, donc c'est très intéressant avec un club phare à côté, Lézignan quand même, qui n'a pas une structure pour recevoir un majorité de Coupe d'Europe qui va nous aider, d'autant plus que le maire de Narbonne est vice-président au Feuceleux, il faut le savoir, c'est quelqu'un qui adore le rugby à 13, donc qui nous ouvre les portes. Et ensuite, le club d'Albi aussi. Albi, c'est une région, le Midi-Pyrénées, qui est une région foncièrement triste et qui avait été, cette ville avait été séduite la saison dernière, justement, par la finale de la Coupe de France, où il y a eu un fort succès populaire. Alors, je veux dire, c'est même eux qui nous ont contactés, donc ça a été un choix. L'équipe de France donc, séjournera à Toulouse, justement, ça va nous éviter des déplacements, parce que c'est jamais trop bon aussi, dans un Four Nations, d'aller se délocaliser à jouer 2 jours à Paris, 3 jours, c'est jamais très bon. Là, nous allons être sur place, l'équipe de France va être sur place et va pouvoir rayonner. Et voilà, donc, et l'ambition, bien sûr, c'est de finir premier et de pouvoir jouer de nouveau le Four Nations la saison d'après, puisque c'est le premier l'équipe qui aura remporté la Coupe d'Europe et qui jouera le Four Nations. Le Four Nations se jouera en Angleterre, ouais, comme la saison dernière, normalement.
Messieurs, il ne nous reste plus que 10 minutes pour clore cette émission.
Désolé d'avoir été.
Non, c'est très bien. C'était court, concis, c'était parfait. C'est parfait. Tu pourras revenir.
C'est moi qui conduis.
C'est moi qui est plus dans le ciel ce soir.
C'est moi qui ai éclairé la voiture.
C'est la clé de la voiture. Hein. Bon alors 10 minutes consacrées au futur proche, c'est-à-dire le match à venir dimanche 15h. On retrouve Brutus, les gars. Brutus, Salford, donc victoire impérative. Objectif rébellion, c'est ce qu'a écrit dans l'Indépendant aujourd'hui.
Ah, c'est clair que même plus que rébellion, c'est surtout pour sortir un peu la tête du seau, parce que c'est vrai que là ça, moralement c'est difficile, donc je pense que c'est vraiment la bonne opportunité pour se relancer. Remettre un peu les sourires un peu sur les visages et pouvoir redémarrer peut-être avec un peu plus de confiance le championnat et oui voilà avoir attaqué avec un meilleur moral.
Jérôme, il y aura forcément l'envie, il y aura l'agressivité, mais est-ce que ce sera suffisant pour vaincre Salford? Quelle serait la recette selon toi pour les abattre?
Je pense que premièrement on doit vraiment se concentrer cette semaine sur notre boulot à nous, sur les consignes qu'on nous donne. Surtout au niveau du stage, je pense que depuis le début de la saison, je pense que c'est un peu ce qui nous porte défaut aussi, en plus des blessures. Je pense que si on arrive à faire ça, on aura fait un grand pas vers la victoire.
Patrick Toreille, tu as ouvert un petit peu l'émission avec nous, tu vas la clôturer pratiquement. Tu es coach encore de Salse 13, tu as un passé rugbystique plus qu'élogieux, donc tu maîtrises largement. Toi, on se dit aujourd'hui, voilà, Patrick Toreille est coach des Dragons. Il reste un quart d'heure avant le coup d'envoi face à Salford. Qu'est-ce que tu dis aux joueurs?
Bon, d'abord, je dirais que c'est un match éliminatoire. Donc, automatiquement, il faut tout donner sur le match pour sortir vainqueur parce que ça peut envisager une aventure en coupe et que ça appartient aux joueurs. Des matchs comme ça, sur 80 minutes, tout donner pour se qualifier pour le prochain tour. On n'est qu'à 4 matchs d'une finale. Je pense que c'est faisable. Bon, chaque match réserve son lot de décisions. Oui, alors, il faudra peut-être les forcer et le public sera, j'espère, supporter et encouragera cette équipe qui en a besoin. Et je pense qu'ils sortiront vainqueurs parce qu'ils ont besoin de ce match pour se relancer. Voilà.
Mais oui, mais écoute, moi, en tant que président de Peña, je peux te dire que déjà samedi, les places sont annotées, c'est gratuit pour les abonnés. Hein. La RFL avec les deux clubs ont permis que les places soient gratuites pour les abonnés. À noter que le virage donc sera condamné, donc il y aura la tribune Bonshomme, la tribune gauche. Donc il faudra, ben on sera 6500, donc il faudra faire le maximum de bruit. On sera derrière nos joueurs à 100%, comptez sur nous. Je lance déjà un appel, les Dragons vont gagner, mais que si ça venait à mal se passer, que les siffleurs, on va s'en occuper. J'ai quelques gros bras dans les tribunes d'Aï, Bernard Young en tête m'a dit je vais m'en occuper personnellement. Il y a quelques mâchoires qui risquent de tourner en vrac. Donc on ne siffle pas les joueurs même si ça se passe mal. Mais de toute façon ils vont gagner, c'est sûr. Moi ce que je souhaite c'est avoir une grosse défense, voilà, que les joueurs rentrent sur le terrain et que les premiers ballons que prennent les Anglais, ben, qui...
Tu pourrais pas nous donner le nom de l'arbitre, non?
C'est mon copain Bentham, je crois. Non, non, mais j'espère que les Dragons vraiment en défense vont. Non, c'est bon. Non, sincèrement, j'espère qu'en défense, on va leur faire comprendre dans les 10 premières minutes qu'ils ne viendront pas gagner à Brutus, parce que voir les commentaires de McNamara disant qu'il venait prendre le soleil et les deux points à Perpignan.
C'est un truc de journaliste, ça.
Ou c'est un truc de journaliste, mais il l'a dit quand même. Hein, donc, il faut
pas
que Brutus.
Tu l'as lu, c'est pas pareil.
Je l'ai lu, il faut que Brutus redevienne Brutus. Voilà.
Mais nous aussi, effectivement. Bon, hier soir, c'est lundi. Lundi, on s'est réunis à Sals, les Peignas, hein, les 18 Peignas, on s'est réunis à Sals. Effectivement, rien n'a changé pour nous. Hein. On est toujours des. L'équipe, et rien ne changera. On a aussi, d'ailleurs, on a prévu que le 4 juillet, pour la venue de Wigan, on va réitérer cette grillade cargolade qu'on a fait au milieu de Perpignan. Hein. L'année dernière, je crois, il y a deux ans, on l'avait fait. Il y a deux ans, on a fait 500 personnes. Non, 500, je crois. Ouais. Cette année, on va prendre 800 personnes. Donc, on va inviter les supporters de Wigan, parce que c'est des gens comme nous aussi, hein, ils viennent avec les enfants, et on va faire la fête. Mais franchement, encore hier, nous, il n'y a aucun problème. Évidemment qu'il y a des victoires qu'on aimerait voir et elles n'arrivent pas. Mais bon, ça sera pour samedi, ça sera pour dimanche, on en est certain.
Moi, je souhaite aux joueurs plus de sérénité sur le terrain. Si vous arrivez à être plus serein, vous allez automatiquement, vous allez mieux jouer et vous arriverez à passer. Tout autant, vous devez y arriver.
Pronostic.
Pour être serein, il faut gagner déjà. Donc, pour être serein, il faut gagner déjà. Dans la sérénité,
oui,
je pense
non, mais
pas qu'il est d'entrée.
Tu peux rentrer.
Ne pas se projeter leur place.
En étant décontracté, en disant tu joues le tout pour le tout, à un moment donné. Hein.
Moi, je pense qu'il faudrait mettre aussi entre parenthèses la peur de l'arbitre, du référé, là, des pénalités. Ne pas penser à ça. Mon temps défense, les cartouchés, et que la confiance revienne, et que le groupe soit soudé, et que la victoire soit là. Je pense qu'on aurait gagné dimanche. Voilà.
Alors là, on est sûr que les Dragons vont tout donner pour remporter ce match, mais alors sur un plan plus technique, Salford, c'est un adversaire connu, hein, et vous avez d'ailleurs remporté un match déjà là-bas cette année, sur les deux rencontres que vous avez réussi à gratter, il y a Salford. Salford, c'est quoi? C'est une équipe besogneuse, ça on le sait, avec les Halkers, Sibit et compagnie, mais c'est quoi aussi? Est-ce que ça se limite uniquement à ça?
C'est clair que si on leur met une bonne pression, qu'on les empêche leur demi de jouer, ça se limite assez vite aussi. Ils n'ont pas les individualités qu'ils peuvent avoir à Wigan ou sur pouvoir leur mettre la pression pendant 20 minutes et sur un exploit personnel, un type va vous débouler et faire un essai arrière de 80 mètres. Mais on sait qu'il faut les prendre au sérieux parce que c'est rigoureux, c'est sérieux, ça va faire tomber peu de ballons. C'est ce qu'ils font, qu'ils sont bien revenus sur le dernier match en championnat.
C'est surtout une équipe que ça fait. Ils sont super habitués à ces matchs coûteux. Là. Ils sont chaque année, à part, je crois, il y a 4-5 ans où ils avaient fait les playoffs, chaque année, c'est un club qui se bat contre la relégation. Donc, c'est sûr que c'est des équipes qui sont vraiment habituées à ces matchs coûteux et qui lâcheront rien. Quoi.
D'accord, on a bien entendu, donc on sait où on en est, finalement, les joueurs savent où ils en sont. Il nous reste. Oui, Hervé ?
Venez dans les populaires, du côté de IE-Sûreté, tu avais le casque.
Je lui coupe le micro si c'est pour dire
ça. Va, le suivre souvent, ça, René, il est sur Tech, je crois, c'est parti.
Bon, on va instaurer, si vous voulez, quelque chose, un concept nouveau là, qui peut être sympathique. On a fait les pronostics jusqu'à présent. Hein. Systématiquement, on demandait à chacun d'entre nous qui pense qu'il va gagner et sur quel score. On pourrait lancer, si ça vous va bien. Prends note, Louis, tu prends note.
Ah, mais je prends note. Tu sais ce que c'est le vainqueur à la fin d'année, oui.
Voilà. Et celui qui sera
le week-end en Espagne, prévu.
Le week-end en Espagne, je ne savais pas ça.
Du côté de...
D'accord. On croit ça dans vous. C'est Pierre Vergès qui t'a donné l'adresse, d'ailleurs. Hein.
C'est le meilleur pour ça. C'est le meilleur. C'est le top.
Non, pour être plus sérieux. Alors, on va donner le pronostic et on va faire celui qui s'éloigne le plus du score final qui perd l'apéritif la fois prochaine. Ça vous va?
Tout à fait.
Allez, ça marche. Allez. Un pronostic, Olivier Gondran.
Allez, moi je vais dire 27-10 Dragon.
Hervé Niro.
32-8 Dragon.
Pierre Vergès.
24-16 Dragon.
Il s'en fout, il sera pas là la semaine prochaine, donc il perdra pas l'apéro. 24-16. Tu viendras.
Monsieur.
Alain Forge. Il faut prendre le micro, Alain.
26-12 pour les Dragons.
26-12. Jean-Marie Bousquet.
34-18 pour les Dragons.
René Montalat.
28-08 pour les Dragons.
Monsieur Bonnories.
Pour moi, écoutez, match nul pour les Dragons. 30-30. Objectivement. Allez, 30-30.
C'est la coupe.
30, c'est la fatigue surtout, 30-14. 30-14 pour les Dragons, voilà, on n'a plus qu'à espérer. Comme à chaque émission, eh bien, on remercie nos partenaires sans qui l'émission n'existerait pas.
Et donc, avec cette semaine, un nouveau partenaire, voilà. Et pas des moindres, puisque c'est le plus gros de la 13e heure, le petit resto où nous avons déjeuné après l'émission à Ailly-sur-Tête, dans le petit resto à Ailly-sur-Tête. Remercier aussi Camomille avec c'est la maman de Thibaut Margallier, hein, toujours à Ille. L'entreprise C2A, Domagès de Régis Ribert à Perpignan. Et l'amicale des Dragons de la Tête, dont je tairai le nom où elle se trouve. Mais bon, ouais. Donc voilà, un grand merci à tous les partenaires et aux joueurs. Hein.
Voilà, une heure et demie donc consacrée aux Dragons. On remercie évidemment Jérôme Guisset, Cyril Gossard d'être venu. C'est passé vite, c'était sympa comme émission, on est régalé.
C'est très bien passé, ouais. C'est agréable.
Et on croise les doigts pour vous, on sera derrière pour vous encourager. Donc, comme on dit dans notre jargon rugbystique, merde pour le prochain match. A très bientôt, amis trésistes, pour la 7e émission de la 13e heure. Allez.